Alors, bonjour.
Oui, oui.
Alors, je m'appelle Patrick Picard, je suis maître d'école de métier. Je suis instituteur au départ. J'ai fait ça pendant une vingtaine d'années. J'ai travaillé dans l'enseignement spécialisé, j'ai travaillé dans le primaire, en maternelle, j'ai été formateur d'enseignants, j'ai travaillé dans un rectorat à faire de l'ingénierie de formation, essayer de construire des formations en direction des publics enseignants du premier et du second degré. Et puis, je travaille depuis la rentrée à l'intérieur de l'INRP dans une structure qui s'appelle le Centre Alain Savary. Ce Centre Alain Savary, il s'occupe essentiellement des élèves qui vont pas bien à l'école en relation avec leurs conditions de vie sociale. Ça s'appelle tout le travail qu'on fait autour des ZEP, de l'éducation prioritaire. Alors, je vais vous demander d'avoir la gentillesse de faire comme en classe, c'est-à-dire que a priori on se connaît pas. J'ai pris quelques renseignements sur vous, mais ils sont relativement flottants. Je sais que vous êtes un groupe hétérogène, et je sais que dans ce que je vais dire, il va y avoir des choses qui, pour certains, vont être vraiment lentes et déjà sues, et pour d'autres, un peu complexes. Et donc, j'aimerais pouvoir discerner à de toutes petites mimiques gestuelles le fait que vous disiez là-dessus, est-ce que tu pourrais repréciser, aller plus vite, on s'ennuie, etc. N'hésitez pas, puisque on est censé être dans une phase discutante, donc n'hésitez pas à ce que on joue vraiment le jeu quand vous voulez. Hein, c'est-à-dire, s'il y a quelque chose là qui vous paraît à discuter dans ce que je dis, une petite mimique, on s'arrête et on prend 2 minutes. Hein, on va dire que c'est la règle. Voilà, alors... Olivier et l'équipe de la VST m'ont demandé de travailler sur les questions qui sont derrière moi. C'est-à-dire, on va reprendre tout ce que vous ont dit les prédécesseurs et on va essayer d'illustrer ça. Alors, on avait le choix entre plusieurs thématiques. Hein, donc, là, j'ai choisi, en accord avec les collègues, la question de la réforme des programmes à l'école primaire. Et puis, vous avez sans doute été sensible de l'endroit où vous êtes dans la société à des polémiques qui ont eu lieu en particulier sur l'enseignement de la lecture en France. Alors, voilà, j'essaierai de passer ça en revue. Alors, pas forcément, hein, j'ai toujours, et comme vous, comme chacun d'entre nous, Olivier a dit, la recherche, c'est des choses qui sont parfois engagées. Donc là, je me situe pas dans une position de chercheur. Hein, j'ai essayé de faire une synthèse. Bien sûr, moi, j'ai un point de vue sur les questions. Je vais essayer d'en abstraire le plus possible mon propos. De temps en temps, vous entendrez peut-être un léger hiatus qui vous fera dire, tiens, je pense qu'il pense ça. Mais je vais essayer de rester relativement neutre. Alors... lorsqu'on parle de ces points de vue-là, on a toujours tendance, et ça a été bien précisé par Annie tout à l'heure, à dire, alors bon, le terrain va dire, la recherche n'a qu'à nous dire ce qu'il faut qu'on fasse, ou alors au contraire, le terrain va dire, oui, la recherche, de toute façon, c'est n'importe quoi. Alors, je voudrais déjà partir du point de vue que quand on dit la recherche, en fait, c'est vraiment les recherches, et on va essayer de voir en quoi... ces différentes personnes qu'on appelle chercheurs, les étiquettes on pourrait toujours définir plus précisément, ça parle de beaucoup d'endroits différents. Et que ça regarde une chose d'un point de vue particulier, et c'est comme vous, hein, quand vous êtes en plongée, en contre-plongée, de loin, en zoom avant, vous voyez pas du tout les mêmes choses. D'autant plus que, voilà, si vous regardez le paysage qui est derrière vous, vous le verrez peut-être comme mathématicien, vous le verrez peut-être comme esthète, comme artiste, comme linguiste, comme poète, et vous verrez pas le même paysage. Hein. Et je crois que ce sur quoi j'aimerais qu'on assiste, c'est que la recherche, ça regarde pas du tout le paysage du même endroit avec les mêmes outils pour penser. Et je vais essayer donc un petit balayage sur ces questions-là. Qu'est-ce qui fait que des politiques changent un programme d'enseignement dans un pays ? Est-ce qu'ils vont chercher les informations dans la recherche ? Quelles informations ? Que dit la recherche ? Que disent les différentes recherches ? Quel produit idéologique l'État sort de tout ça ? Et ensuite, qu'est-ce que ça ouvre comme nouveaux objets éventuellement de savoir. Alors je vais regarder successivement les différents points qui sont derrière moi. Est-ce qu'on a des chiffres sur les comparaisons internationales? Est-ce qu'on a des chiffres, Olivier disait, c'est toujours difficile d'avoir des chiffres, et puis trop de chiffres tue le chiffre aussi. Est-ce que l'école, elle est ségrégative? Quels sont les savoirs des enseignants sur la question? Est-ce qu'il y a des théories éducatives? Vous voyez, ça, c'est vraiment le kaléidoscope, hein. Et c'est pas un propos organisé, là, qui est derrière moi. C'est vraiment une liste de choses qui sont assez, assez complexes. Ça va sur là où je vous emmène? C'est comme les élèves au début du cours, causent toujours, on va voir. Alors. Je vais prendre un premier point de vue, c'est il y a des équipes de recherche. Alors là encore, vous embêtez pas trop avec les notes, hein, les PowerPoints qui seront disponibles. J'ai fait des supports pour qu'on puisse échanger ensemble, mais on va pas bien sûr rentrer dans le détail de chacun des points de vue de chacune des recherches, parce que sinon il faudrait qu'on fasse ensemble un master sur la question, et ça durerait un petit peu plus longtemps qu'une journée. Il existe d'ailleurs des masters de formateurs dans lesquels on essaie de travailler à ces différents points de vue. Alors, premier angle de vue, si on veut savoir des choses sur ce que savent les élèves, on peut essayer de comparer ce qui se passe dans les différents pays. Voilà, il y a des chercheurs belges en particulier, on pourrait citer aussi Marcel Craeck qui a écrit « L'école peut-elle être juste et efficace ?» que je vous recommande. Ils regardent en fonction de trois paramètres, le redoublement, est-ce qu'on fait redoubler les gamins ou pas? Est-ce qu'il y a des filières? Et est-ce qu'il y a de la mixité sociale? Est-ce que les riches vont à l'école avec les riches et les pauvres avec les pauvres, ou est-ce que c'est mélangé? Et ils font trois modèles de pays en Europe, je détaille pas, hein, et ils disent, en fonction de ces trois modèles, on voit qu'il y a des pays qui réussissent mieux que d'autres. Et ils disent, si on est dans les pays nordiques, par exemple, qui sont très hétérogènes, qui font pas redoubler, où il n'y a pas de filière précoce, ou à l'inverse, si on est en Allemagne, où à 11 ans, on envoie certains gamins dans les Hauptschule et certains autres enfants dans les Realschule, et c'est-à-dire qu'on ségrègue dans des filières précoces, eh bien, quand on regarde les résultats dans PISA, on a des moins bons résultats. Donc, vous voyez, un angle de recherche. Sous-entendu, je vous laisse faire la conclusion, si on organisait un système dans lequel il n'y a pas de redoublement, dans lequel les enfants sont mis dans des filières où on va tous ensemble, une classe d'âge très longtemps, etc., etc., alors le système serait plus performant. Oui, la collègue dit quelque chose de très précis, si ce n'est pas tout à fait audible, selon le LAN, selon la région dont on parle, tous les résultats ne sont pas identiques. Je vais y revenir, et votre remarque est tout à fait pertinente, et on voit bien que si j'en reste à un modèle macro comme ça, j'apprends des choses, mais il y a d'autres choses qui du coup sont masquées, hein, ce que disait aussi Olivier tout à l'heure. Alors, je continue, c'est un point de vue, hein, simplement, vous voyez, je les balaye assez vite. Merci de jouer le jeu, et si ça peut continuer comme ça, c'est parfait. Alors, Marcel Craeck toujours, regarde les résultats de PISA. Alors, vous inquiétez pas, hein, c'est un petit peu angoissant comme ça, mais et il regarde quoi? Il dit, je vais prendre, le premier pays, c'est la Corée, je veux prendre la moyenne, la Corée à 33, et puis je prends les résultats du quart des élèves les plus en difficulté sociale. Et puis je regarde les résultats du quart des élèves les plus favorisés. Et là, je mesure la dispersion des résultats. C'est-à-dire, plus la bande bleue est large, plus le pays est inégalitaire. Donc il y a à la fois le résultat moyen du pays, plus il va vers ce côté-là dans votre sens, et plus il réussit, mais plus sa bande est large. Et vous voyez que la France, elle a des résultats pas si détestables que ça, mais très socialement différenciés. C'est-à-dire, en gros, je pourrais le reprendre dans un autre sens, quand on est dans un élève français et qu'on est enfant d'ouvrier, on a plutôt plus de chances qu'en Finlande d'être en échec scolaire. Alors, vous voyez, ces gens-là regardent, ça c'est fait à partir des résultats de PISA, et ils voient des choses qui ressemblent un petit peu à ce qu'on avait là, mais pris un petit peu d'un autre point de vue. Mais ça donne des renseignements. La même chose pris d'une autre façon. Dans ce sens-là, on regarde depuis très démocratique jusqu'à très inégalitaire. Et puis là, on regarde les résultats. Et on voit que la France, elle se situe ici, c'est-à-dire, elle n'est pas dans les pays qui ont les résultats catastrophiques. On fait beaucoup mieux que le Brésil, le Chili, l'Argentine, le Mexique. On fait à peu près pareil que la Norvège, l'Espagne, la Suisse, les États-Unis, la République tchèque. Mais on est dans la dispersion, encore une fois, ici par exemple l'Allemagne, en moyenne, vous avez raison, est beaucoup plus inégalitaire que nous. La Finlande, l'Islande, la Corée sont moins inégalitaires. Donc ici on voit un positionnement des différents pays selon à la fois les résultats et l'inégalité sociale. Je vais arriver au programme, hein, rassurez-vous, mais... Autre chose, Olivier tout à l'heure parlait des résultats, j'y reviens, je vais tout à fait dans le même sens que lui. Par exemple, on dit en France, moi aussi j'ai fait une fausse, c'est pas JPAPD, c'est JAPD, aux journées d'appel et de préparation de la défense, en 2001, il y avait 11,6% d'élèves en difficulté. Alors, le chiffre comme ça, on dit, c'est beaucoup. Et puis, il y a une autre enquête de l'INSEE, de 2002, qui dit que si on prend le même test, il y a 4% des 18-24 ans qui sont en échec, mais 19% des 55-65. Ah. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne vais pas jusqu'au bout, hein. Mais les chiffres... Allez, encore des petits coups de chiffres comme ça, c'est juste pour qu'on continue à penser un peu complexe ensemble, hein. Résultat des garçons par rapport au résultat des filles. Eh bien, figurez-vous que dans la plus grande partie des pays du monde, nous dit l'OCDE, les garçons ont des résultats assez différents des filles. Et donc, plus la barre est longue et plus il y a un pourcentage d'élèves en difficulté important. Mesdames, mesdemoiselles, vous avez des félicitations du jury, vous voyez que dans tous les pays du monde... Les filles sont plus intelligentes. Non, les filles sont plus douées. Non, les filles réussissent mieux à l'école. Et alors évidemment, derrière, vous vous mettez à mouliner, vous vous mettez à mouliner. Est-ce qu'elles réussissent mieux parce qu'elles sont mieux adaptées, parce qu'elles sont plus sages, parce qu'elles perturbent moins, parce qu'elles sont meilleures en maths, parce qu'elles aiment mieux lire. Enfin, tout un tas de choses qui font que le chiffre, comme ça, comme nous disait Olivier tout à l'heure, ça nous dit, mais ça nous dit pas grand-chose. En tout cas, on aimerait bien savoir pourquoi, dans tous les pays du monde, il y a plus de garçons en difficulté que de filles en difficulté. Bon, au passage, vous voyez que la France, là, en dessous de ma grosse flèche, est pas forcément dans les pays les plus pourris du monde, quoi qu'on en entende parfois. Dernier paquet de chiffres, c'est de pire en pire l'école, hein. C'est de pire en pire, rien ne va, c'est de... Alors ça, c'est... Source INSEE, enquête de l'emploi, reprise par l'ADEP. Nombre de personnes pour chaque année sortant sans qualification du système éducatif. On sait que c'est relativement quelque chose qui est un indicateur de l'insertion sociale et professionnelle. Eh bien, figurez-vous qu'on n'a jamais sorti moins de personnes sans qualification du système éducatif, depuis qu'il y a des statistiques. Ah, finalement, le système scolaire ne fait pas de plus en plus mal. Non. En tout cas, du point de vue qui nous intéresse ici, c'est-à-dire des gens qui regardent les qualifications, eh bien, on s'aperçoit que... Alors, évidemment, hein, on peut dire ça baisse, ou depuis 1990, ça baisse de moins en moins. C'est vrai. C'est-à-dire que là, il y aurait comme une frange qui résiste. Mais vous allez me dire, oui, mais d'accord, ça résiste, mais le CAP, si vous avez déjà regardé un référentiel de CAP, entre un référentiel de CAP d'aujourd'hui et un référentiel de CAP d'il y a 25 ans, les référentiels de CAP d'aujourd'hui sont beaucoup plus difficiles. C'est normal, parce que les qualifications exigées, etc. Je vais maintenant répondre à votre question de tout à l'heure. Encore un autre point de vue, et j'en aurai fini sur les tableaux de chiffres, qui sont juste là pour vous bousculer en même temps et vous dire que les choses, selon de l'endroit où on regarde, sont toutes très différentes. Ce sont deux sociologues, Benayed et Brokolicki, qui regardent comment ça se passe concrètement. C'est-à-dire qu'on nous dit, oui, alors, si on regarde en France les résultats, c'est une chose. Mais si on les regarde par département, alors c'est pas tout à fait Volender, mais si on les regarde par département, eh bien, ils s'aperçoivent que... Alors, c'est la note moyenne au brevet en français et en maths. Hein. Donc ici, les enfants de cadre et de profession intellectuelle ont en moyenne en France 12 sur 20 au brevet quand on cumule les maths et le français. Ça va ? Et les enfants d'ouvriers sont moins intelligents. Hein. Ils ont que 8,9. Pardon, enfin, ils réussissent moins bien, c'est ce que je voulais dire. Et donc plus on est haut dans la hiérarchie sociale, mais ça vous c'est pas une révélation stupéfiante pour vous aujourd'hui. Mais par contre, ce que font Brocolici et Benayet, c'est qu'ils regardent département par département. Et alors là, ils voient des choses bizarres. Ils voient par exemple que il y a des départements où on réussit mieux qu'ailleurs. Les cadres réussissent mieux qu'ailleurs. Les ouvriers réussissent mieux qu'ailleurs. Et même l'écart. Alors ici, c'est écart entre cadre et profession intermédiaire, 1,8. Écart entre employé et ouvrier, 1,8. Donc, les départements qui sont en sous-réussite, j'ai inversé, pardon, merci d'être vigilant, les départements qui sont en sous-réussite, ils ont des écarts entre les riches et les pauvres, on va dire, qui sont plus forts que les départements qui sont en sur-réussite. Travail de sociologue. Je reprends en regardant vos yeux. Vous voulez que je reprenne l'explication ? Alors, je vais prendre juste cet exemple-là. L'exemple du département voisin, de la Loire. La Loire, qui est un département plutôt ouvrier, réussit bien mieux que beaucoup d'autres départements. Et là, Brocolici et Benayed se disent, bon, est-ce qu'on peut aller essayer d'aller de plus près, voir pourquoi ? Et donc, ils font un travail de sociologue, un travail exigeant, et ils s'aperçoivent que, eh bien, à Saint-Étienne, il y a des pauvres et des ouvriers partout. Et il y a très peu d'établissements prestigieux qui aspirent les élèves de la périphérie et qui donc vident les élèves de la périphérie de leurs bons élèves. Eh bien, ils regardent ça dans un département, dans deux, dans trois, dans quatre, dans cinq, et ils s'aperçoivent que lorsque les établissements proches sont relativement homogènes, on y réussit en moyenne mieux qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre. C'est-à-dire, moins il y a d'établissements scolaires en décrochage, et plus le résultat moyen des élèves et des établissements sera bon. Alors c'est un résultat extraordinaire parce que même quand les pauvres réussissent, ça n'empêche pas les riches de réussir. Ce qui est quand même une bonne nouvelle. Je vous ai dit que je resterai modeste dans mes opinions, mais voilà. Alors je vais rentrer dans d'autres types de théories. Donc là on a vu... Oui. Merci.
Intervention très passionnante, surtout en la faisant lier avec celle de M. Rey de tout à l'heure sur les comparaisons internationales. C'est vrai, il faut avoir un esprit critique par rapport à ces comparaisons internationales, mais justement en vous écoutant, on voit justement que les chercheurs ils sont interpellés justement par ces recherches internationales. On sait bien qu'ils sont les visées lointaines de ces recherches. C'est toute une industrie en matière d'évaluation, notamment PISA, notamment TIMSS. Et surtout, ils sont très médiatisés. Ils sont très médiatisés, de telle façon, il y a un impact sur l'opinion publique. Et quand on dit opinion publique, on dit politique publique, on dit décision. Donc les décideurs, ils sont tout le temps dérangés par ces études internationales. Et je me réfère justement au débat social qui a été en allemand sur les résultats du PISA. C'était un débat de société et c'était très important. Et les chercheurs, ils ont été interpellés. Je pense que votre exposé est très pertinent dans la mesure où on doit avoir une exploitation secondaire de ces résultats des études internationales à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle régionale. Je dirais même à l'échelle locale, pour justement sortir les grandes variables et les grands justement déterminants de la réussite scolaire et de voir justement quels sont les facteurs qui interviennent de près ou de loin sur ces résultats scolaires. Donc je pense que justement ce positionnement critique, ce recul critique par rapport à ces études est très important. Et les chercheurs ont de quoi dire à ce niveau-là. Merci beaucoup.
Alors, merci à vous de votre intervention. Mais l'existence de ces études est très importante. C'est-à-dire qu'une chose est d'être critique devant les chiffres et devant les résultats, mais c'est parce que nous avons des résultats que nous pouvons produire des discours. En tout cas, quand je dis nous, pas moi. Hein, moi, je suis pas chercheur. Là, je suis synthétiseur d'informations. Hein, mais c'est parce qu'on a PISA qui nous dit ça qu'ensuite, on peut penser. Et ce que disait Olivier tout à l'heure sur l'insuffisance des résultats statistiques en matière éducative me semble vraiment quelque chose qu'il faut souligner. C'est-à-dire, c'est pas parce que on va ne pas se laisser instrumentaliser par un résultat trop rapide de PISA qu'il faut pas aller voir PISA de près. Et là-dessus, les meilleurs travaux, à mon avis, disponibles, si vous avez un seul ouvrage à lire, c'est celui de Nathalie Mons sur le travail qu'elle a fait sur PISA, qui est vraiment un travail extraordinaire, parce que justement elle a été décortiquée sans logique préalable, parce que bien sûr vous avez raison, il y a des logiques derrière. Est-ce qu'il faut un système plus libéral? Est-ce qu'il faut la confrontation entre les établissements? Est-ce qu'il faut payer les profs au mérite? Ce sont toutes des bonnes questions, parce que si un système qui met les établissements en concurrence est meilleur pour la réussite des élèves, et en particulier des élèves les plus pauvres, je vois pas pourquoi on aurait un a priori idéologique qui nous ferait l'interdire de penser. Donc, je participe à la rédaction d'un petit bulletin interne au Centre Alain Savary, et dans notre prochain numéro, le bulletin XYZ, auquel vous pouvez vous abonner gratuitement, il y aura deux pages sur un système éducatif, le système chilien, a été libéralisé, et aujourd'hui on est en capacité d'avoir des études précises qui nous disent est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien, etc. Et les chercheurs chiliens, qui sont très critiques sur leur système éducatif, nous disent heureusement qu'on a les évaluations. Hein, c'est-à-dire que cette critique, j'allais dire, que je fais des systèmes d'évaluation, des systèmes d'information, encore faut-il que le système d'information existe, et là-dessus je rejoins absolument Olivier. Je vais descendre plus bas. Et je vais essayer de me dire, bon, vous avez tous entendu parler de la polémique sur la lecture, donc d'un point de vue d'enseignant du premier degré, où on apprend aux élèves à lire, qu'est-ce qu'il y a à mobiliser comme théorie sur la lecture qui fasse qu'on arrive à cette espèce de caricature de débat public, hein? Est-ce que vous êtes pour ou contre la globale? C'est vraisemblablement, si vous avez des enfants ou si vos familles côtoient des enfants, c'est vraisemblablement la seule question que vous vous posez, que se posent beaucoup de parents dans l'angoisse qui est la leur au moment du CP. Est-ce que l'Institut a une méthode globale? Sous-entendu, est-ce que je vais fabriquer un dyslexique? Voilà, enfin, je mets ces caricatures-là, mais c'est à la fois des très vieux discours et c'est à la fois des très graves problèmes. Alors, comment la recherche les regarde-t-elle? Alors, elle les regarde, là encore, de plusieurs endroits, et il n'y a pas une recherche. Il y a vraisemblablement quelque chose qui se développe aujourd'hui de plus en plus, qui est autour de, on regarde un élève ou un enfant qui se met à penser dans une machine électronique, et on voit son cerveau qui s'allume et qui s'éteint, et c'est ce qu'on appelle le développement des neurosciences, est un grand pourvoyeur d'informations depuis un certain temps, et qui se met à penser les problèmes de la lecture du point de vue du fonctionnement cognitif neuronal. C'est-à-dire, un enfant qui ne lit pas bien à tel âge, c'est vraisemblablement parce qu'il a des troubles dans son cerveau. Vu comme ça, je n'irai pas plus loin, parce qu'on va pas, bien sûr, engager la discussion là-dessus, mais c'est une façon de voir. Pas très loin de ça, il y a la psychologie cognitive qui regarde comment le sujet traite l'information, comment il fait fonctionner sa mémoire à court terme, sa mémoire à long terme, comment il encode l'information, comment il stocke, etc. Donc, il regarde cet apprentissage de la lecture d'un point de vue cognitif. Comment est-ce que le sujet se débrouille avec son cerveau? Si je faisais un parallèle, ça serait un ordinateur, la mémoire vive, la mémoire, le disque dur. Bah, comment on fait l'analogie là, hein, comment le sujet se débrouille avec sa mémoire vive, son disque dur, pour encoder, traiter de l'information, etc. Pour travailler ça, hein, il faut, nous disent les gens qui travaillent de la psychologie cognitive, entraîner des procédures. Entraîner le cerveau, hein, comme par exemple le calcul mental, c'est une procédure. Alors, il y a aussi des gens qui disent non, ça n'a rien à voir avec ça. Apprendre à lire, c'est rentrer dans un apprentissage culturel, parce que la lecture, c'est quelque chose qui est une chose humaine. On a inventé d'abord des systèmes idéographiques avec les hiéroglyphes, puis petit à petit, on arrive à des systèmes alphabétiques. Notre système est un système orthographique, c'est un système complexe. Donc, il faut faire une entrée par le culturel. Il faut beaucoup raconter l'histoire aux enfants, il faut leur faire beaucoup produire des textes. Il faut les rentrer dans la communauté des écrivains, des lecteurs, et alors ils rentreront dans la culture. Hein, j'essaie de caricaturer juste un minimum, mais pour que vous voyez bien les différentes positions. Alors là-dessus, Olivier nous parlait des conférences de consensus, et le PIREF a été un très joli moment qui nous a permis en France une conférence de consensus qui est encore disponible sur Internet. Et en gros, en 2002, le PIREF a dit, écoutez, la lecture, c'est simple, on est à peu près d'accord, tous les gens qui sont là, qui se revendiquent de tous ces modèles, si on fait 5 choses pour l'apprentissage de la lecture, vraisemblablement, on fera pas trop de bêtises avec les élèves. Et ces 5 choses, c'est comprendre, faire un travail sur les composantes sonores, hein, c'est-à-dire dans bateau, est-ce que ça commence bateau, ça commence comme maman, ou dans papa, ça commence comme pipe, hein, travail sur les syllabes, sur les phonèmes, enfin, etc. Il faut essayer de dire, de raconter des histoires, de faire que les enfants se mettent à passer de leur langage naturel à ce qu'on appelle le langage d'évocation. Vous savez, le langage naturel des enfants, c'est 5 ans, 4 ans, 3 ans, il vient voir la maîtresse, il dit « Maman, mon vélo, il est cassé !» La maîtresse lui dit « Pardon, maman, mon vélo, il est cassé !»« Ah, ton vélo est cassé, c'est ça que tu veux dire ?»« Oui, maman, mon vélo, il est cassé !» Et vous voyez dans cette articulation-là que passer dans le monde de l'écrit, c'est passer par ce langage d'évocation. « Kevin, tu veux bien raconter aux autres ?»« Eh bien, moi, mon vélo, il est cassé !» C'est complètement différent dans la structure mentale d'un enfant de « Maman, mon vélo, il est cassé ». Et puis, dernière chose, vraisemblablement, il manque une parenthèse fermante. Pour apprendre à lire, il faut surtout apprendre à écrire. Et que vraisemblablement, c'est qu'en apprenant à écrire, qu'on apprend à encoder et à orthographier. Et vous savez bien que nos résultats en matière d'orthographe sont assez mauvais, parce qu'on a une langue complexe. Et que donc, on a perdu à peu près, vraisemblablement en une quinzaine d'années, on a perdu à peu près 2 ans. C'est-à-dire que les capacités d'un enfant en orthographe au CM1 sont à peu près identiques à ce qu'elles étaient en début de CE1 ou en début de CE2, à peu près 2 ans, parce que vraisemblablement, on fait moins d'orthographe. Et vraisemblablement, on fait aussi pas beaucoup de production d'écrit, on fait surtout pas beaucoup de copies. Ça paraît peut-être un peu bizarre, mais si vous avez des enfants, regardez quand est-ce qu'ils produisent de l'écrit, qu'ils produisent des textes, quand est-ce qu'ils copient, et vous verrez que sans doute pas assez souvent. Enfin bon, je rentre pas dans les détails, mais vous voyez bien là des différents modèles, une conférence de consensus, et puis. Juste un petit point de détail, je vous l'ai fait comme ça très vite. Vous savez que beaucoup d'enfants ne comprennent pas très bien ce qu'ils lisent. Et voilà les résultats tels qu'ils sortent de la JAPD. Hein. Ça veut dire, en gros, on a à peu près 15% d'enfants. Alors, si vous écoutez tel journal télévisé, vous entendrez 15% des enfants ne savent pas lire en entrant en 6e. C'est absolument faux. Par contre, 15% des enfants ne maîtrisent pas assez bien la lecture et l'écriture pour ce qu'on a besoin de faire en 6e. Et ce qu'on a besoin de faire en sixième, c'est prendre des tableaux de chiffres, en histoire, en maths, relier les informations, etc. Enfin, ce qu'on appelle un travail en utilisant la lecture pour faire quelque chose d'autre. Et les connaissances en littératie de 15% d'élèves, effectivement, sont assez insuffisantes. Et là-dessus, eh bien, par exemple, quelqu'un qui vient du monde plutôt culturel et quelqu'un qui vient du monde plutôt cognitiviste ont à peu près, aujourd'hui, des réponses à peu près stabilisées. Là encore, je vous passe les détails. Le but n'est pas que vous rentriez dans le détail de ces choses-là, mais vraisemblablement, on sait qu'un enfant qui ne comprend pas bien, c'est qu'il a trois grands types de difficultés possibles. Sans doute qu'il ne décode pas assez vite, et donc il faut entrer dans le décodage. Mais sûrement aussi qu'il ne comprendrait pas très bien quand on lui raconte des histoires. Parce qu'il comprend pas très bien que quand on parle du nom de la personne, puis après on dit le professeur, et puis après on dit son ami, est-ce que c'est les mêmes personnes, pas les mêmes personnes? Tout ça, c'est pas tellement forcément assez entraîné. Et donc, on a aujourd'hui des résultats. Alors vous voyez, ces résultats-là, ils viennent, pour toujours rester centré sur d'où sont les recherches, l'ADEP, qui donne des bases statistiques en disant voilà des résultats, des chercheurs qui viennent d'océans différents qui nous disent en regardant ça, voilà ce qui nous semble qu'on peut savoir sur ces choses-là. Alors, je vais arriver à la réforme des programmes 2007. Voilà qu'on réforme les programmes de l'école élémentaire. Pourquoi ? Si le politique fait ça, je suis fondé à dire qu'il le fait pour de bonnes raisons. C'est-à-dire que s'ils pensent qu'il faut réformer les programmes, c'est qu'ils pensent que ceux d'avant, les programmes de 2002, n'étaient pas assez bons. 2002, 2007, 2008. Alors pour essayer de comprendre ça, je vais décaler complètement le regard, je vais arrêter de m'occuper des résultats de recherche, je vais essayer de m'occuper de comprendre des discours. Et pour ça, je me suis dit, quoi de mieux que de leur proposer des éléments issus de ce que le président de la République, à peine nommé, a envoyé à l'ensemble des éducateurs, c'est-à-dire des parents et des enseignants. Donc j'ai essayé d'extraire un certain nombre de corpus, là encore pour essayer de comprendre quelle est la logique propre de ce discours, c'est-à-dire que quand le président Sarkozy, à peine arrivé, écrit aux éducateurs, c'est qu'il veut leur dire quelque chose. Alors, il va y avoir du texte un peu épais, c'est pas très grave si vous ne lisez pas tout, je vais simplement, moi, commenter les mots-clés que j'ai identifiés, et donc qui sont un peu parcellaires, je le suis d'accord. Éduquer, c'est concilier deux mouvements contraires, celui qui porte à aider, chaque enfant a trouvé sa propre voie, et celui qui pousse à lui inculquer ce que soi-même on croit juste, beau, vrai. Comment ne pas étouffer sa personnalité? Chaque enfant a sa manière d'être, il doit pouvoir l'exprimer, mais il doit pouvoir aussi apprendre. Donc si j'essaye de faire une première extraction du corpus, là, il y a l'apprentissage, c'est ce qu'on inculque, ce qu'on apprend, mais ça doit respecter la singularité, la personnalité de chaque être. Voilà ce que j'en comprends. Là encore, vous avez le droit de dire que je fais une hypothèse fallacieuse et de donner votre propre interprétation du corpus que j'ai extrait. C'est des extraits, hein, donc là je vous remets pas les choses dans le continuum. Par une sorte de réaction, le mot est fort, depuis quelques décennies, c'est la personnalité de l'enfant qui a été mise au centre et non pas le savoir. On retrouve cette double articulation, il y a d'un côté la personnalité, de l'autre côté le savoir. La culture commune qui se transmettait de génération en génération, tout en s'enrichissant, s'est effritée au point qu'il est plus difficile de se parler, de se comprendre. L'échec scolaire a atteint des niveaux qui ne sont pas acceptables. Là, il y a quelque chose de c'est de pire en pire, qui est net. Hein. Je continue encore l'extrait de corpus, il y a encore deux diapos. Et donc, pour travailler ça, il est indispensable de travailler sur des questions qui soit de bien discerner ce qui est juste et ce qui n'est pas juste, ce qui est bien et ce qui est mal. Le mérite, la faute, l'admiration, ce qui est grand, ce qui est vrai, ce qui est laid, ce qui est petit, ce qui est superficiel, l'amour et le respect qu'on porte aux enfants. Et derrière, je crois que l'interdisciplinarité, alors on a beaucoup parlé des savoirs, hein, les savoirs qui seraient un peu enfermants, et donc il faut faire de l'interdisciplinarité, il faut métisser les cultures, métisser les points de vue, pour arriver à une renaissance intellectuelle, morale et artistique. Et donc il nous faut relever le niveau d'exigence, et donc chaque enfant ne doit aller en sixième que s'il a fait la preuve qu'il est capable de suivre l'enseignement du collège. Dernière diapo. Là, j'ai centré mes extraits sur ce qui est de l'ordre de la responsabilité individuelle. Et il dit aux enseignants, vous pourrez choisir la pédagogie qui vous semblera. Je fais confiance aux enseignants, vous êtes les mieux placés pour décider de ce qui est bon ou pas bon pour vos élèves. Je veux donc pour les établissements de l'autonomie. L'autonomie, ça va avec l'évaluation. L'évaluation, ça va avec les moyens qui seront répartis en fonction des résultats. Et donc, pour reprendre le fil qui court depuis la Renaissance jusqu'à l'école de Jules Ferry, donc sous-entendu qui a été un peu rompu, hein, depuis Jules Ferry, le fil s'est rompu, alors il faut refondre. Et vous savez qu'il y a un think tank du président Sarkozy qui s'appelle la Fondation pour l'innovation politique qui fait ce genre de travail. Et donc, à travers ces quelques extraits, j'ai essayé de vous faire sentir comment, évidemment, vous voyez, enfin je l'ai construit pour cela, hein, le décalage entre les premières diapos que je vous ai montrées et ce qui apparaît là comme un discours idéologique. Mais l'idéologie existe dans la société, et si les chercheurs peuvent être idéologiques, le politique est lui aussi idéologique, l'idéologie elle est partout. Et il ne s'agit pas de dire si elle est bonne ou si elle est mauvaise, mais se dire qu'on ne fait pas de recherche et on ne parle pas des questions d'éducation en faisant sortir l'idéologie. Parce que si on fait sortir l'idéologie, alors on ne comprend plus rien à ce qui se passe. Je vais essayer maintenant d'illustrer ça plus concrètement sur ce qui s'est passé pour les programmes 2007-2008. Donc, comme je vous l'avais dit, lorsque les programmes ont été modifiés, les programmes de 2002 commençaient à peine à être mis en œuvre. Et là encore, comme l'a dit Olivier, il n'y a jamais eu aucune évaluation qui pourrait permettre de dire si le début de la mise en place de ces programmes de 2002 avait été quelque chose de positif ou de négatif. En tout cas, ces programmes avaient été critiqués par beaucoup d'enseignants, critiqués par beaucoup de parents. C'était des programmes qui étaient complexes, qui étaient difficiles à lire, qui étaient des programmes exigeants pour les maîtres. Donc, loin de moi l'idée de dire s'ils étaient mieux ou moins bien que les actuels, mais en tout cas, ce sont des programmes qu'on a fait fonctionner pendant très peu d'années. Alors, qu'est-ce qu'on a fait comme réforme ? La première réforme, et là on va retrouver quelque chose encore qu'Olivier nous a dit tout à l'heure que je vais exemplifier, on a fait quelque chose sur le vocabulaire. Donc on a été chercher quelqu'un. Alors, est-ce que c'est un chercheur ? Je ne sais pas, c'est un écrivain en tout cas, il s'appelle Monsieur Bentolila, et on lui a confié en grande pompe un rapport, et on lui a dit, voilà, vous allez faire un rapport, et à partir de ce rapport, on verra et on fera des propositions. Et donc ça a donné lieu à une première circulaire, et la circulaire, voici quelques extraits. Lorsque les mots précis manquent aux élèves, c'est le sens qui s'obscurcit. Je pense que là, on ne peut être que d'accord avec ça. Bien évidemment, la violence, c'est d'abord le déficit de mots. Et donc, dit la circulaire, le déficit lexical conduit à l'enfermement sur soi et parfois à la violence. Donc, il faut dès la maternelle mettre en place une initiation méthodique au vocabulaire, puisqu'ils en manquent. Et donc, dès la grande section, il faut apprendre un ou deux mots nouveaux par jour. Et donc, il faut régulièrement organiser des leçons de mots. Là encore, on a le droit d'en être d'accord ou pas d'accord, mais ce que j'essaye de souligner devant vous, c'est la cohérence idéologique avec ce qui était préalable. C'est-à-dire, si c'est l'individu qui a des déficits, alors il faut renforcer l'individu, et à ce moment-là, peut-être que les déficits vont se résorber. On pourrait penser que c'est quelque chose qui est de l'ordre de la salubrité publique. Il y a des nouvelles instructions aussi sur le calcul qui arrivent en 2007 et qui disent l'objet de la circulaire est de rappeler la place prépondérante du calcul dans l'apprentissage des maths. Donc il faut dès la maternelle apprendre la comptine numérique et à l'élémentaire, le calcul mental doit faire l'objet d'une pratique quotidienne d'au moins 15 minutes. Alors, là encore, hein, j'extrais un certain nombre de choses, mais vous voyez bien que devant une école qui a des réussites, on l'a vu dans les graphiques, mais qui a aussi des difficultés, c'est-à-dire il y a 15 à 20% d'élèves qui résistent à la réussite scolaire. On cherche comment faire. Et dans une certaine logique, voilà des solutions. Est-ce que ces solutions-là sont valides ou pas valides? Qui peut le dire? Est-ce que la recherche peut le dire? Est-ce que la nation peut le dire? Est-ce que les praticiens peuvent le dire? Est-ce que les familles peuvent le dire? Et on voit bien que sur une question comme les questions d'éducation, poser ces quatre acteurs, c'est pas rien. J'ai un ami qui est belge. Quand je lui dis « ton gamin va à l'école privée », il me dit « mais et alors ?» Et j'ai dit « quand même, l'école privée, tout ça ». Mais il me dit « mais attends, tu crois que le conseil de surveillance qui s'occupe de l'école, là, les parents que nous sommes, on n'essaye pas de faire le bien de tous, le bien pour tous ?» Et quand je l'entends parler de ça, je me rends compte à quel point, moi, qui suis un défenseur de l'école publique, j'ai forcément des points de vue idéologiques sur la question. Hein, c'est pour ça que je vous mets des points de vigilance là, parce que, bien évidemment, c'est des questions complexes. Est-ce qu'il faut faire plus de calcul mental? C'est comme tout à l'heure quand j'ai dit qu'il faut faire plus de copies, que j'ai vu deux, trois collègues lever les yeux. Est-ce qu'il faut faire plus de copies? Oui, non. Est-ce qu'il faut faire plus de béaba? Oui, non. On voit bien que si on pose la question comme ça, alors on s'éloigne de toute la richesse des savoirs de recherche. Parce qu'on ne devient plus que sur du conflit d'opinion pour lequel on dit aux gens vous êtes pour changer de sélectionneur ou pas changer de sélectionneur. Et là, tout le monde a un avis. Et comme on a tous appris à lire, on a tous un avis sur comment il faut apprendre à lire. Et donc, la vraie question, hein, je vais essayer d'y revenir maintenant dans ma dernière partie, c'est est-ce que sur les savoirs qui sont des savoirs sociaux, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est les conditions d'une école juste et efficace, qui est fondée à donner de l'opinion? Est-ce que l'État est fondé à donner une opinion? Oui. Est-ce que la nation? Est-ce que les parents? Est-ce que les Pourquoi est-ce que les enseignants seraient les mieux placés pour savoir ce qui est bon pour l'école? Après tout, les enseignants, peut-être qu'ils défendent leurs intérêts corporatifs. Et que quand ils protestent contre une réforme ministérielle, c'est simplement parce que, là on entend la réforme du lycée, est-ce qu'il faut moins d'heures de cours pour les élèves? Est-ce qu'il faut plus d'aide pour les élèves? Est-ce qu'il faut de l'histoire géo en terminale? Est-ce qu'il faut des maths en terminale, du français en terminale, de la physique en terminale, de l'algèbre en terminale? Toutes ces questions-là, on voit bien qu'elles sont... Voilà. Alors, je termine avec juste le préambule des programmes. Transmettre, faire acquérir des connaissances et des compétences. On retrouve ce qu'Annie nous a présenté tout à l'heure sur les compétences. Il nous parle du socle commun de connaissances. Le socle commun, c'est quelque chose qui a été diversement apprécié, mais en tout cas quelque chose qui dit il faut que tous les élèves sortent de là avec quelque chose. Les programmes de 2008, qui ont été controversés, font la référence au socle commun. L'école primaire doit avoir des exigences élevées, Mémoire, faculté d'invention, raisonnement, imagination, attention, autonomie, règles, initiative. Il y a tout. Il faut faire un enseignement structuré et explicite. Là encore, c'est une petite virgule à ce que nous disait Olivier, c'est-à-dire des courants nord-américains qui disent que le bon enseignement, celui qui est efficace, c'est celui qui est structuré et explicite. Si je vous explique bien ce qu'on est en train d'apprendre, alors vous apprendrez mieux que si je vous laisse bidouiller, l'apprendre par vous-même, etc. Et donc là, les nouveaux programmes font référence à ça. Enseignement, structuré, explicite, entraînement, motivation. Ah oui, la motivation et l'estime de soi, c'est quand on réussit à l'école. Aide. Ah oui, aide. Parce qu'il y a quelque chose de très important, c'est que dans les programmes de 2008, on passe de 26 heures à 24 heures d'enseignement. C'est-à-dire que le ministre dit, on va mettre moins d'heures de cours, mais on va aider les élèves à apprendre. En disant ça, il met aussi des dispositifs d'aide, alors pardon pour les non-francophones, pour les non-français, excusez-moi, programme personnalisé de réussite éducative, on va se mettre ensemble pour voir cet élève-là, qu'est-ce qu'il a comme problème, on va faire des stages pendant les vacances, on va... Et là, le ministre dit, publiquement, je vais faire pour tous les enfants ce que seuls les riches peuvent se payer dans les petits cours. Ambition démocratique. Au passage, comme il a besoin un petit peu d'argent, il ferme à peu près la moitié des postes d'enseignants spécialisés dans la réussite des élèves, qui faisaient ça s'appelle réseau d'aide spécialisée pour les élèves en difficulté, donc qui prenaient les élèves de manière externalisée à la classe. Mais en même temps qu'il fait ça, il rencontre des savoirs issus de la recherche. Et je ramène toujours à notre petite discussion. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un comme Roland Guagou, qui s'est violemment opposé au programme de 2007, et qui a fortement polémiqué avec le ministre de l'époque, M. de Robien, quelqu'un comme Roland Guagou dit oui. La question de l'aide, c'est extrêmement important. Et la plupart des gamins qui réussissent pas, qui sont dans nos 15-20%, là, c'est ceux qui sont en vrac avec les savoirs scolaires. Et Roland Guagou dit, pour cela, je vous la fais courte, il faut trouver le moyen d'exercer, il faut trouver le moyen de réviser, de soutenir, de préparer, de revenir en arrière, de compenser. Et puis deux autres chercheurs que je pourrais citer là, Patrick Rayoux de Paris 8 Créteil, qui vient de sortir un excellent ouvrage sur le travail des élèves, les devoirs, qui regarde concrètement comment les élèves de collège font leurs devoirs, et qui dit mais là ça va pas du tout quoi. Les profs, ils balancent des devoirs et personne ne s'occupe de comment on fait les devoirs. Et les devoirs, c'est à la fois extrêmement nécessaire et extrêmement discriminant. Donc comment on fait? Et puis une autre personne que je pourrais citer aussi, Anne-Marie Chartier, un historien de l'éducation qui a travaillé longtemps dans ces murs et qui dit dans un autre article de l'excellente revue XYZ à laquelle vous pouvez vous abonner gratuitement, qu'il y a à peu près 100 ans, les meilleurs élèves de France allaient au lycée et ils avaient 4 heures de cours et 4 heures d'études. Les meilleurs, c'est-à-dire n'allaient au lycée que les enfants de la bourgeoisie, et ceux-là, ils avaient 4 heures de cours et 4 heures d'études avec des répétiteurs. Par jour, oui. C'est-à-dire que... Je pensais par semaine. Et donc ça veut dire que même le système méritocratique à l'époque se préoccupait énormément des questions de l'étude, de l'apprentissage, des devoirs, de la répétition. Et donc ces trois chercheurs qui sont, allez, plutôt opposés aux orientations idéologiques actuelles, disent attention, alarme, l'aide, les devoirs, le travail de l'élève, c'est quelque chose qu'on a un peu laissé tomber depuis 25 ans. Donc tout ça pour vous dire, dans mon va-et-vient entre recherche, idéologie, politique, etc. J'ai presque fini. Je vais finir avec juste deux ou trois choses qui me semblent déterminantes quand on veut regarder pourquoi est-ce qu'un élève apprend et pourquoi est-ce qu'un élève n'apprend pas. Et là, je m'appuierai sur des théories qui nous viennent de la psychologie. Quand on interroge des élèves sur comment tu fais pour apprendre, il y a des réponses qui sont très très clivées. Et colonne de gauche, c'est un modèle d'élève. Colonne de droite, c'est un autre modèle d'élève. Pour certains enfants, apprendre, c'est je sais ou je sais pas. Ah, les maths, non. Non, moi, c'est des... non, c'est pas moi les maths. Bah, déjà, mon père, ma grand-mère, ma sœur, mon frère, c'était pas pour nous. Ces élèves-là, en général, ils sont centrés sur la tâche. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il y a à faire? Et la maîtresse, elle donne la consigne et ils répètent. Maîtresse, qu'est-ce qu'il faut faire? Et la maîtresse, elle répète, puis il répète encore, qu'est-ce que c'est qu'il faut faire? Tu viens m'expliquer, maîtresse, parce que c'est bien, là. Alors, Sylvie Seb, qui regarde les enfants de près, elle cite une belle image comme ça, c'est, je vais vous la faire, ça peut-être, je vois que vous commencez un peu à peiner. Une maîtresse qui dit à ses enfants de moyenne section, bon, alors voilà, je vous donne des papiers, alors vous voyez, c'est l'histoire qu'on a répétée qu'on a entendue ce matin, vous découpez et vous remettez en ordre. Et puis elle passe dans les rangs comme ça, puis elle voit la petite Cécilia qui est sur sa feuille. Et la maîtresse passe et elle lui dit « Non mais on s'en fiche comment tu découpes ?» Et la petite fille se retourne vers la maîtresse et Sylvie Seb, le chercheur qui est dans le fond de la classe, elle dit « Bah oui, cette petite fille a dit, on lui dit sans arrêt, quand on découpe, faut être bien sur les traits et tout, c'est bien important. » Et là la maîtresse lui dit « On s'en fout comment on découpe ?» Il y a quelque chose qui va pas. Donc sous-entendu, la petite fille elle est concentrée sur la tâche, là où... vraisemblablement l'autre petite fille qui a bien compris, elle a bien compris que si la maîtresse fait faire ça, c'est parce que ce qui l'intéresse, c'est de savoir si la petite fille a compris l'histoire, et donc elle va manifester qu'elle a compris l'histoire en remettant en ordre les vignettes. Mais il y a vraisemblablement des enfants qui comprennent jamais ça quand ils font ça en moyenne section. Et donc ils sont centrés sur la tâche, sur les consignes, colonne de gauche, et pour eux, le sens des activités scolaires, il est très, très, très loin. C'est-à-dire, si tu es sage, si tu écoutes la maîtresse, si tu fais ce qu'elle te dit, alors tu vas pouvoir passer dans la classe supérieure et un jour, quand tu seras grande, tu auras un métier. Et quand, vers l'âge de 14 ans, ils s'aperçoivent que ça ne marche pas, il y a un peu de violence qui s'exerce. Ces exemples-là sont aussi cités par Stéphane Bonnery qui parle dans son livre « Comprendre l'échec scolaire » édition La Dispute, qui parle d'un élève qui au collège qui apprend une carte de géographie. Donc la prof lui a donné une carte de géographie à apprendre. Il l'apprend très bien à la maison. Alors il regarde le vert c'est là, le rouge c'est là, le trait c'est là, etc. Et le lendemain, il a bien appris parce qu'il y a contrôle demain. Hein. Et donc la prof distribue le contrôle et il voit la carte. Et là, Amidou, parce qu'il s'appelle Amadou, dit « Oh la salope !» Parce que la carte qu'elle donne à faire, c'est évidemment pas la carte qu'elle a donnée à apprendre, parce que ce qu'elle veut, c'est que l'enfant sache faire des cartes en général. Et ce qu'il a appris à exercer sur la carte de l'Espagne, il va l'avoir au contrôle sur la carte de l'Italie. Et là, Amidou, il comprend pas ce qui se passe, parce qu'il dit « Ah oui, évidemment, elle aime pas les Arabes. » Parce que les malentendus scolaires, hein, c'est le titre qu'a donné Stéphane Bonnery à cette chose-là, c'est quelque chose qui est extrêmement corrélé avec les catégories sociales. C'est-à-dire pour un certain nombre de gamins, la connivence avec l'école, elle se fait naturellement, parce que les registres de langue, la manière dont on parle, les questions qu'on pose, ça ressemble à ce qu'on fait à la maison. Quand pour d'autres, c'est beaucoup plus loin de ça. Quand pour d'autres, colonne de droite. Apprendre, c'est vraiment un processus, c'est-à-dire je vais apprendre si je m'en occupe. Je vais apprendre d'abord un petit peu, puis encore un petit peu, puis encore un petit peu, puis encore un petit peu. Ça ne va pas être du 0 au 1 tout de suite. Et donc, qui arrive à accrocher ensemble le sens des activités scolaires, le but, et ils vont construire dans l'activité les connaissances et les compétences nécessaires. Et donc, c'est ces gamins-là qui vont être autonomes, qui ne vont pas demander 25 fois la consigne, etc., etc. Alors, je finis avec ça parce que je boucle sur les différentes connaissances issues de la recherche. On avait essayé de vous proposer un panorama, hein, donc j'ai bien conscience qu'on est un petit peu haut, mais vraisemblablement, toutes les questions qui nous occupent en matière d'éducation, elles sont liées à des connaissances en matière de psychologie. Et les connaissances en matière de psychologie, elles s'empilent. Elles s'empilent les unes sur les autres. Alors, je pourrais vous illustrer ça comme ça. Ça sera mieux, excusez-moi. Voilà. Prenez l'enseignement de la grammaire. Eh bien, l'enseignement de la grammaire, je ne sais pas vous, mais dans votre passé scolaire, il y a deux catégories. Soit vous avez vécu la grammaire comme un moment absolument jouissif, dans lequel vous compreniez enfin comment marchait la structure de la langue et comment vous alliez pouvoir vous en emparer pour écrire. Et il y a quelques personnes qui vivent ça au contraire comme un moment strictement sans aucun rapport avec leur vie sociale, y compris en matière d'écrit. Eh bien, selon que, en tant qu'enseignant, on pense que la grammaire c'est un passage obligé ou c'est un outil qui sert à la réflexion, eh bien, la manière dont on va enseigner la grammaire, elle sera complètement différente. Et ça, c'est un travail qui vient d'être réalisé par un chercheur qui s'appelle Philippe Closard, qui a fait sa thèse là-dessus, sur quels problèmes les enseignants ont avec l'enseignement de la grammaire. C'est vraiment un problème de chercheur, hein. Quels problèmes les enseignants ont avec l'enseignement de la grammaire. Eh bien, en regardant les enseignants faire, Philippe Closard, il s'est aperçu que vraisemblablement, les enseignants, ils promènent avec eux différentes couches sédimentées des savoirs savants sur la grammaire. Alors, si je vous l'illustre, il y a colonne de gauche, il y a des connaissances en grammaire qui remontent à peu près à Denis de Trace. Si on a des collègues grammairiens ou linguistes ici, je ne suis pas expert, donc je fais juste redire ce qu'on m'a dit là. Il y a des collègues qui s'appuient sur des connaissances en grammaire qui datent de Port-Royal. Et il y a des collègues qui s'appuient sur des connaissances en grammaire qui sont directement sorties de la grammaire générationnelle de Chomsky des années 70. Alors pourquoi je dis ça? Parce que c'est souvent quelque chose qui est relativement aveugle, pardon. C'est-à-dire que dans notre manière de penser, et y compris dans le discours de Sarkozy, il y a des connaissances qui viennent de il y a très longtemps. Et on a tous ces choses-là qui sont sédimentées. Allez, dernière diapo. Il me semble qu'il y a une nouvelle approche en recherche qui est tout à fait féconde, et on a ici à l'INRP plusieurs équipes qui travaillent là-dessus sur comment se fabrique la professionnalité enseignante, et je reviendrai à ce que Annie Feffan a dit tout à l'heure. Il dit c'est une équipe autour de Lucria, Patrick Rayou, etc., mais c'est des recherches qui sont aussi faites à Paris 8. En gros, l'enseignant il est en tension entre deux choses, et vous allez retrouver Sarkozy. L'enseignant, il doit faire apprendre, mais en même temps, il doit le rendre possible. C'est une tension. C'est-à-dire, il n'y a pas d'école s'il n'y a pas d'apprentissage. Je le dis parce que des fois, on a cru aussi que dans les zones prioritaires, si on se mettait uniquement à faire des fêtes le jour de l'Aïd, les enfants allaient mieux apprendre. On s'est aperçu que non. Le travail de l'école, c'est l'école. Mais donc, c'est ce qui est au centre. C'est pas l'enfant, c'est pas la personnalité de l'enfant. Ce qui est au centre, c'est le rapport au savoir des élèves. Deuxième tension, entre apprendre et faire réussir, ben oui, c'est une deuxième tension, hein. Tous les profs savent ça. Est-ce que je suis plus exigeant? Mais quand je suis plus exigeant, qui est-ce que je vire? Qui est-ce que je mets en échec, etc. Troisième tension, entre conduire la classe, c'est-à-dire faire classe. Vous voyez, là, j'essaye à la fois de faire classe, de tisser des liens entre vous, mais d'essayer d'être en même temps attentif aux individus, plus ou moins dans la situation où je suis, hein, faiblement. Et quatrième tension, un problème d'interprétation de ce qui se passe. Si vous ne comprenez pas ce que je dis, est-ce que c'est parce que vous êtes moins intelligent que moi? Ou est-ce que c'est parce que vous avez des problèmes de fonctionnement de votre cerveau? Ou est-ce que c'est parce que la situation dans laquelle on le fait ne vous permet pas d'attraper ce que je raconte et qu'il faudrait mieux que je m'y prenne autrement? Ces trois hypothèses-là, je les fais caricaturalement, mais on est toujours dans ce truc-là. Celui qui ne peut pas apprendre, est-ce qu'il a un trouble? Est-ce qu'il a un problème d'intelligence? Est-ce qu'il n'est pas doué? Est-ce que c'est la situation qui ne permet pas que les choses se fassent entre eux et moi? Et donc ces tensions du métier, en ce moment, il y a des équipes de recherche qui essayent de beaucoup y travailler parce qu'ils se disent, c'est pas du haut que viendra les solutions. C'est dans les controverses. Et ces gens-là disent, il n'y a pas de meilleure façon d'aider les enseignants à faire leur métier que d'organiser en leur sein des controverses. Comment tu fais, toi, pour faire ça? Et toi, comment tu fais? Pas pour chercher les référentiels de bonne pratique. Parce que les référentiels de bonne pratique, ça donne toujours du défensif. Et donc, comment tu fais, toi? Quels sont les gestes que tu manipules? Comment tu fais? Pas pour dire, c'est comme ça qu'il faut faire, mais quels sont les différents possibles dans le genre enseignant? Donc, 4 équipes qui travaillent avec cette question-là avec nous, de travailler en formation, non pas seulement sur « voilà ce qu'il faut que tu fasses ». Oui, mais quand je fais ça, qu'est-ce que ça me demande à moi en tant qu'enseignant? Là encore, tout ça, c'est des corpus de recherche qui sont en train de se fabriquer. Hein, c'est pas juste mes élucubrations, là, ce que je vous dis, c'est des nouveaux savoirs de recherche qui sont intéressants. Et ces nouveaux savoirs de recherche s'intéressent notamment à la force des collectifs. C'est-à-dire beaucoup des choses qui se passent aujourd'hui dans la souffrance au travail, et je ne vais pas vous faire le coup de France Télécom, ça vient essentiellement de la dissolution des collectifs. C'est-à-dire quand je suis tout seul, sommé de faire quelque chose, que je ne peux plus m'appuyer sur les autres, que les collectifs sont détruits, alors il y a de la souffrance, alors il y a de l'impossibilité d'agir, alors il y a de la dépression. Et donc voilà un certain nombre de couples entre le souci de soi que doivent avoir les enseignants et le souci d'apprentissage des élèves, entre la didactique disciplinaire et la didactique professionnelle, entre l'innovation et la routine qui repose, voilà un certain nombre de tensions dans lesquelles on peut penser les métiers d'enseignant. Merci.